Bonsoir et bon début de semaine à tous. Situation sécuritaire en RDC. Des affrontements ont été enregistrés ce week-end dans plusieurs parties du pays. Au Maniema, la cité de Pougne a été reprise par les FRDC après 24 heures d'occupation par les Raia Mutomboki. Au Nord Kivu, le calme est revenu à Nyamilima après des affrontements entre deux groupes armés, à savoir les Nyatura et les Maïmaï Chetani. En province orientale, le territoire d'Angwe sous la menace des groupes armés étrangers, notamment la LRA et les Mbororo. Comment analyser cette situation et que faire pour mettre fin à l'activisme des groupes armés en RDC? C'est le thème de Dialogue entre Congolais de ce lundi 18 février 2013. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Jean-Marie Labila. Il est penseur et membre de la majorité présidentielle. Monsieur Labila, bonsoir.
Bonsoir.
Mohamed Boulay, député national de l'opposition et membre de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Il est général à la retraite. Monsieur Honorable Boulay, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et Jean-Jacques Wondo, analyste politique et expert en questions sécuritaires. Il est auteur de l'ouvrage intitulé « Les armées au Congo-Kinshasa, radioscopie de la force publique au FRDC ». Monsieur Wondo, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Merci parce que vous êtes déjà très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Charles Matayanga de Mwanza en Tanzanie. Je pense que toutes ces milices ne peuvent pas s'adonner à ces genres d'attaques si impunément, sans la complicité des politiciens, du gouvernement, voire même d'une portion de la population désespérée. Robert Baomé de Bukavu au Sud Kivu. Je pense que c'est encore impossible, si pas difficile, de mettre fin à l'activisme des groupes armés en RDC et surtout dans sa partie orientale tant que dans l'autorité. Il ne se manifeste pas réellement cette volonté politique de réorganiser, de reformer la police, l'armée et les autres services de sécurité. Autant dire que la définition d'une politique claire s'impose en cette matière. Merci de nous suivre par ton RDC sous la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Je l'ai dit dans mon introduction, des affrontements ont eu lieu ce week-end dans plusieurs parties du pays, à savoir Pougna dans le Maniema, Nyamilima au Nord Kivu, à Kisevere dans la province du Katanga et dans la province orientale, le territoire d'Ango est sous la menace des groupes armés étrangers, notamment la LRA et les Mbororo. Parlant de la situation sécuritaire dans la cité des Pougna au Maniema, les FRDC ont repris hier dimanche à midi le contrôle de cette cité minière après des combats avec les miliciens Raia Mutomboki. Ces combattants ont occupé Pougna pendant 24 heures. La reprise de cette cité a été confirmée par le porte-parole du gouvernement, le ministre Lambert Mende, et joint au téléphone par Michel Kifindangoy.
Pougna a été occupée brièvement par des éléments que l'on présente comme des Raia Mutomboki. Nous avons bien compris qu'il s'agit de pillages parce que Pougna est une zone aurifère. Il y a des mines d'or et donc la plupart de ces mouvements armés essayent de faire comme leurs précurseurs qu'ils étaient censés combattre. Vous savez, les envahisseurs étrangers, ils vont vers les zones minières où ils essayent de se rendre maître des lieux pour piller. Mais je vous informe, et je pense que vous avez la primeur de l'information, qu'il y a quelques heures, la ville de Pougna vient de rentrer sous le contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo, des forces qui sont coordonnées par le général François Olenga, chef d'état-major de la force terrestre.
Dans la province orientale, le territoire d'Ango, une fois de plus, sous menace des groupes armés étrangers, notamment les Mbororo, la LRA et les Houda. Ango, c'est à plus de 600 km au nord de Kisangani. Le député national Robert Paissayo l'a signifié samedi dernier au cours d'un point de presse à Kisangani. Cet élu de la circonscription d'Ango appelle les autorités congolaises à prendre leurs responsabilités. En réaction, le commissaire de district du Bazouélé rassure que le gouvernement congolais a mis les batteries en marche pour une solution à ce problème. Reportage Anselme Massois.
Cet appel de l'élu du peuple est motivé par tout ce qui se passe sur le territoire d'Ango 10 ans après l'arrivée des éleveurs Mbororo dans ce territoire. Robert Paysayo attribue la responsabilité de cette situation aux autorités nationales.
Comment expliquer que des étrangers entrent chez nous armés, soient protégés, on leur délivre un document pour qu'ils circulent librement? Moi, j'ai parlé personnellement avec les chefs coutumiers qui subissent les décisions qui viennent de Kisangani, de Kinshasa et de Bouta. De certaines autorités qui aujourd'hui ont des cheptels qui sont devenus aujourd'hui des éleveurs. Donc quelque part nous sommes complices de notre propre malheur. C'est une première qu'un État souverain dont les frontières doivent être protégées soit occupé de cette sorte et qu'aucune mesure ne soit prise.
Le commissaire du district du Bas-Zulé appelle les habitants d'Ango au calme. Une rencontre, dit-il, se tient ce lundi à Bouta avec certaines autorités nationales sur cette question. Boulou Bobina Bogila.
Nous comptons tenir une grande réunion ici, le lundi. À l'occasion, nous avons un peu passé en revue tous ces problèmes-là. L'armée est dans leur entité, donc il n'y a pas à s'inquiéter.
Pour la société civile de la province orientale, il est temps que les autorités congolaises relancent l'opération de l'expulsion de tous les étrangers en situation d'irrégularité en RD Congo. Kisangani, Anselme Massoua, Radio Okapi.
Et au Nord Kivu, le calme est revenu hier après-midi dans la cité de Nyamilima, à plus de 40 km de Rutshuru. Cette localité était quelques heures plus tôt théâtre des affrontements entre les éléments Mai Mai Chetani et les éléments du MPA Nyatura. C'est la troisième fois consécutive depuis le début de cette année que la cité de Nyamilima est victime des affrontements entre milices armées locales. Des affrontements ont été aussi signalés hier dimanche au village Kiseveré, village situé à près de 40 km de Lubumbashi, non loin du site minier géré par l'entreprise minière MMG dans le territoire de Kipushi. Nous sommes là dans la province du Katanga. Bilan selon différentes sources de ces attaques des Mai Mai, 3 personnes auraient été tuées et le village vidé de sa population. Un calme a été observé ce lundi matin dans ce village, signalant que cette situation a semé une panique dans la ville de Lubumbashi. Jean-Marie Labila, je rappelle que vous êtes penseur et membre de la majorité présidentielle. Comment vous analysez ces différents affrontements dans plusieurs parties de la RDC ce week-end?
Merci madame pour l'opportunité que vous nous offrez encore une fois de plus de joindre notre voix à celle de tant d'autres compatriotes qui sont préoccupés du développement de la situation sécuritaire, particulièrement dans la partie orientale du pays, du nord au sud. Ce que je peux dire, c'est qu'on assiste là à une espèce de généralisation et d'instrumentalisation de l'impasse et du chaos, mais pour des raisons bien connues. Quand j'analyse le point de vue de nos compatriotes qui ont tantôt là donné leur analyse de la situation, je lis quelques notes de fatalisme, de fatalité, mais aussi de découragement. C'est comme si le Congo était voué au chaos, que le Congo n'avait pas d'avenir, que non. Par contre, nous devons avoir l'esprit d'analyse pour discerner que, d'un point de vue de la sociologie des conflits, les zones de conflit correspondent avec des espaces miniers. Et le ministre Mendel l'a dit, ça c'était une indication très importante pour construire une analyse objective. Parce que quand nous prenons l'histoire des mouvements insurrectionnels dans notre pays, dans les années 60 jusqu'autour des décennies 70, les guerres d'insurrection sont de type idéologique. Les gens combattaient un régime parce que soit ils étaient d'obédience socialiste et combattaient la droite, soit c'était le contraire. Mais aujourd'hui, la sociologie des conflits a comme vecteur de causalité le contrôle des espaces miniers. Et quand nous avons dans notre pays une gouvernance qui a été affaiblie pendant des décennies, il est tout à fait normal qu'un point de vue de la sécurité, de la gouvernance sécuritaire, que l'armée éprouve quelques problèmes. Mais là, les deux compatriotes ou les deux communications qu'on a eues indiquent très clairement que les FARDC ont commencé à recouvrer une capacité de riposte à tel point qu'une ville sous contrôle pendant un temps est reprise 24 heures aussitôt, alors que les commandements de l'état-major avaient annoncé 48 heures. Donc, les forces armées sont en train de se requinquer. Mais qu'à cela ne tienne, je voudrais aussi dire une chose. C'est que il y a comme une espèce de lien entre les insurrections actuelles avec les mouvements d'agression qu'il y a eu il y a un temps. C'est-à-dire qu'à tout instant, à tout moment d'abord, c'est la partie allant de l'Ituri en passant par les Graben jusqu'au Katanga, qui est la zone minière pas de prédilection pour la RDC. Et c'est par là qu'on sent le foisonnement autant des groupes armés que des mouvements d'agression. Donc ceci explique cela. Maintenant, la façon d'analyser indique très clairement qu'il y a des objectifs économiques, des intérêts financiers qui sont poursuivis, mais dont l'atteinte passe par le chaos, par l'instrumentalisation de l'impasse. Si l'on a bien compris ça, il n'y a pas lieu de désigner des suspects au sein du gouvernement. Je crois que le rôle régalien de tout gouvernement...
Il y a un auditeur même qui a dit qu'il y a certains politiciens...
Je trouve cette analyse-là biaisée, madame. Un politicien, une tutée personne, peut-être, mais un État, non.
Ou encore la population qui se sent désespérée et collabore avec ces groupes armés.
Cela a été à la mode pendant un temps, mais aujourd'hui, du point de vue du gouvernement, toutes ces forces-là sont négatives. Parce qu'on ne peut pas avoir des armées tribales, des armées claniques, des armées villagistes. Non, l'armée, c'est...
Mais malheureusement, c'est ça le constat.
Mais c'est une situation anormale. Il ne faut pas que les populations congolaises pensent qu'à partir de leurs tribus, elles peuvent organiser des armées. À contre-courant, ça a toujours nui aux intérêts des populations, parce que ces armées-là, quand elles se mettent en activité, ou ces mouvements rebelles, ces bandes armées, quand elles se mettent en activité, ce n'est pas ailleurs qu'ils vont faire des dégâts. C'est dans les terroirs dont ils sont censés être originaires. Donc, à mon avis, ça, c'est une approche qu'il ne faut pas continuer. Il faut la combattre. Il revient aux institutions de la République d'organiser la capacité de défense, la capacité de protection du territoire national. Cela n'est pas le rôle des groupes claniques ou des groupes tribaux ou des familles chefales, que sais-je encore.
Alors, il y a cet auditeur, Nico de Goma, qui dit ceci, Goma au Nord-Kivu: la sécurité et le manque de paix à l'est de la RDC sont résultant d'un manque de volonté politique manifesté par les traitements à deux vitesses de ces genres de situations quand il s'agit de l'est des autres parties du pays, ainsi qu'au sérieux dans la gestion de l'armée.
Bon, moi je pense que c'est une perception à géométrie variable. Quand on est à l'ouest du pays, on fait les mêmes reproches. Quand on est à l'est, la vérité est de reconnaître que nous sommes dans une situation de fragilité dont il faut sortir. Ça, c'est une constante.
Le pays est fragile, c'est ça que vous voulez dire.
Oui, le pays est fragilisé, il n'y a pas de honte à le reconnaître. Mais maintenant, tout le problème, c'est de constater qu'il y a un effort qui s'est fait pour rentrer vers la normalisation. J'ai eu le privilège de participer aux discussions de Kampala. Je crois qu'il a été démontré très clairement que l'M23 était une fiction, que le tout c'était un problème d'agression. Et maintenant qu'on tend à mettre en place la force d'intervention qui pourra venir dans le pays, on espère, avec aussi la remise à niveau de l'armée, que tous ces problèmes pourront être conjurés et que le pays redeviendra calme et pacifié.
Merci Jean-Marie Labila. Mohamed Boulé, je rappelle que vous êtes député national de l'opposition et membre de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Vous êtes général à la retraite. Quelle lecture vous avez de ces affrontements qu'on a observés ce week-end dans plusieurs parties de la RDC? Est-ce que c'est à cause du fait que cette région-là est une région minière, comme nous a dit Jean-Marie Labila?
Oui, merci beaucoup, madame. De ces affrontements, lorsque cela se passe dans des villes, comme j'ai entendu le porte-parole du gouvernement le dire, je suis en train de tenter à penser, est-ce qu'il s'agit de la guérilla urbaine, il s'agit de l'insurrection, ou bien c'est de l'affairisme, tout simplement. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'à un certain moment, au niveau des forces armées, au niveau du haut commandement militaire, on sait très bien quantifier maintenant, province par province, il y a combien de groupes armés qui n'ont pas encore des armées. Mais on connaît le nombre de groupes, même au Katanga, à un certain moment, il y avait 11 groupes armés. Dans le nord, sud, qui font la même chose, en Ituri, la même chose. Mais, et aussi, ces groupes armés, lorsqu'il y a eu des opérations initiées ici et là, Kimia et tout ça, on a dit qu'on a sérieusement frappé, le système de commandement était désorganisé et que c'était des résiduels. C'est dangereux parce que ces résiduels se reconstituent. Qu'est-ce qui peut se constater? Est-ce qu'il y a défaillance de la logistique, défaillance des renseignements? Parce qu'il faut maîtriser les modes de recrutement et de ravitaillement et même des combats de ces groupes armés. Lorsque pour des besoins d'affairisme, on est armé. Mais c'est de la trahison. En ce moment-là, chaque province, chaque garnison Nous avons 12 cours militaires à travers la République. Nous avons quelque chose comme 32, si pas 36, tribunaux de garnison. Et donc, lorsqu'il y a des opérations quelque part, absolument doit suivre là ce qu'on appelle les tribunaux, les conseils de guerre opérationnels, pour traquer tout ce qui... S'il y a des civils qui sont en Corinthe et qui viennent travailler avec ces gens, ils doivent être poursuivis par devant les juridictions militaires pour haute trahison.
Est-ce que cela se fait?
Mais si cela ne se fait pas, j'ai dit ici le déploiement de la justice militaire couvre actuellement, bien que les effectifs sont faibles, moins de 1000, toute la République. Et lorsqu'il y a des opérations, impérativement dans ces opérations, la façon de monter les opérations, on doit prévoir que le conseil de guerre opérationnel s'y déploie pour traquer. Ce qui se passe à Lubumbashi, à répétition, à 40 km du Djevlé, c'est inacceptable. Ce qui se passe au nord-sud du Kivu, c'est inacceptable. Ce qui se passe maintenant à Ango, dans les bases Ouélé, c'est inacceptable. Parce que, à un certain moment, on a dit qu'il s'agissait, Semburo, c'était des éleveurs, donc des réfugiés climatiques, et alors qu'ils viennent en armes, ils commencent maintenant à incendier, à tuer la population. Rappelons-nous, à l'époque de la Deuxième République, je travaillais à l'état-major général avec le général Kaloumé. Et nous servions cette partie-là parce qu'il y a la réserve des chasses Birouélé où les braconniers étrangers venaient pour chercher les trophées. Et chaque fois, il y a eu des opérations. On les montait à partir d'ici. Nous sommes partis une fois à Ango via Isiru pour donner des instructions, recevoir des informations et venir discuter avec les commandants des régions militaires, à Kisangani, les commandants de la circonscription militaire. Et donc, c'est cela le problème. Si maintenant on parle qu'ils ont des documents, qui leur délivrent, normalement, ils viennent jusqu'à Kisangani vendre leurs vaches. Ce qui fait, ils sont munis, normalement, au nom du principe de commerce frontalier, ils sont certainement munis de patates que leur délivre l'exécutif provincial. C'est cela.
Et... Alors, vous avez qualifié toute cette situation d'inacceptable. Est-ce qu'on peut parler, comme l'a dit Jean-Marie Labila, de la fragilité de l'État?
Mais vous savez, mais le processus de la réforme n'a pas encore démarré, parce que, rappelez-vous, pendant la transition, on a eu...
Réforme de l'armée?
Oui, la réforme de l'armée n'a pas encore effectivement démarré. Depuis la transition, il y a eu la montée en puissance, donc au nom de l'intégration de 15 brigades. Maintenant qu'il faut rajeunir l'armée, le recrutement dans ce sens-là, pour venir appuyer cela. Mais il faut beaucoup de moyens. C'est un processus de longue haleine. Et maintenant... Toutes les provinces, au Katanga, il a ce problème. Il y a des groupes armés là-bas que seul le commandant de la région militaire, peut-être avec les moyens, ressources humaines et matérielles qu'il a, il n'a pas la possibilité de traquer à la fois plus de 11 groupes armés. Mais il faut commencer de quelque part. C'est de la même manière dans les nord et sud Kivu et aussi en province orientale. Et donc maintenant, c'est plusieurs fronts, petits fronts, des affrontements ici et là, et à courte durée, et ça pose problème. Il faut avoir des éléments bien préparés.
Est-ce que ça pourrait aussi être difficile pour le gouvernement, l'armée, de neutraliser tous ces petits groupes?
Écoutez, ces petits groupes-là qui travaillent en petits groupes, ils font la guérilla. Il faut préparer des unités des forces armées pour lutter contre la guérilla, donc des unités contre guérilla, pour pouvoir les traquer en forêt. On ne faut pas les attendre dans la ville parce qu'ils sortent. Ils vont en forêt. Il faut les poursuivre jusqu'à là. Les pourchasser, il ne suffit pas seulement de désorganiser leurs états-majors. Il faut frapper, arrêter, et parce qu'ils ont pris les armes contre les populations civiles qui tuent. Mais il n'y a pas de choix à faire. Donc il faut les affronter militairement, avec des moyens conséquents.
Merci Mohamed Boulet. Jean-Jacques Wondo, vous êtes analyste politique expert en questions sécuritaires. Vous êtes auteur de l'ouvrage intitulé « Les armées au Congo-Kinshasa, radioscopie de la force publique au FRDC ». Quelles pourraient, selon vous, être les causes de ces différentes attaques ou de ces différents affrontements dans différents coins de la RDC?
Oui, bonjour madame, bonjour à tous les auditeurs et surtout bonjour aux intervenants. Les causes, moi, je constate quatre observations que je peux relever par rapport à la situation que nous connaissons actuellement. Donc je reste dans un cadre beaucoup plus global pour ne pas répondre au cas par cas. Lorsque vous constatez ce qui se passe aujourd'hui au Congo, on peut relever une ligne d'insécurité qui monte du nord-est donc la province orientale, qui descend vers le sud-est au Katanga. Tout à l'heure, on a fait état de l'insécurité de Mai Mai dans la province orientale et dans la province de Maniema et du Kivu. Mais on a oublié que la semaine passée, il y avait aussi les Mai Mai Katanga qui ont tué des gens dans la province du Katanga. Donc on voit que c'est une ligne vraiment est qui est confrontée, qui est touchée par cette situation. La nature de cette crise ou de cette situation, moi je relève 4 points. La première, nous sommes en face d'une crise aux causes à la fois endogènes et exogènes, qui exige que les solutions ne soient pas uniquement trouvées à l'intérieur du Congo. Je parle souvent de la transnationalité de cette crise. Nous avons le Mbororo qui provient du Tchad, RCA, République centrafricaine, le Soudan, qui descendent vers la province orientale. Nous avons le LRA qui vient de Bouganda. Et aujourd'hui, on voudrait que cette solution, la crise, puisse être résolue uniquement au Congo. Moi, je pense qu'il faudrait aussi, simultanément, envisager une résolution de la crise au niveau des différents pays qui sont concernés par cette situation de conflit tentaculaire. Le deuxième point, la récrudescence de l'insécurité, peut en partie être expliqué par aussi une bipolarisation actuellement ou une réduction de la crise sociopolitique et sécuritaire du Congo entre le gouvernement et le M23 par les négociations de Kampala. Je m'explique. Aujourd'hui, on pense que le problème à l'Est était uniquement dû au problème de la crise avec le M23 et on va négocier à Kampala pour trouver des solutions où le M23 se trouve à la fois sujet, donc acteur, et objet de la négociation. Donc, juge et parti qui doit conclure des accords censés, en théorie, s'appliquer d'abord contre lui et d'autre part censés s'appliquer contre la kyrielle de groupes armés, du moins de la région, qui se sentent exclus et marginalisés dans ces négociations. On annonce déjà la signature de l'accord pour le 24 février. Mais tous ces groupes-là, Mai Mai, ne sont pas partie prenante dans ces négociations. Ça crée une frustration qui pourrait faire de sorte que ces groupes-là veulent se manifester, de sorte à avoir également droit au chapitre. Troisième point, sur le plan interne, on parle des premiers contacts préparatoires au dialogue pour la cohésion nationale. Or, ces contacts ne concernent que les partis politiques, mais ça ne concerne pas comme tel les communautés ethniques dont certaines manipulent les groupes armés qui, à niveau, craignent d'être exclus dans les processus de normalisation politique et ils utilisent la voie de la violence pour pouvoir dire que nous existons, il faut tenir compte de nous. Et enfin, la quatrième observation, c'est que si aujourd'hui on se rend compte que ces Mai Mai sont actifs un peu partout, c'est un constat d'échec du processus dit DDR, c'est-à-dire désarmement, démobilisation et réintégration au Congo, qui induit ipso facto l'échec de la réforme des services de sécurité. Ça, c'est clair. Parce que le DDR avait pour but de désarmer, de démobiliser et de réintégrer ces gens pour éviter que ces personnes et ces groupes puissent être nocifs à la population. Or, 10 ans après les accords de Pretoria ou de San City, on se rend compte que ces groupes restent actifs malgré tous les projets qui ont été mis en place. Il est temps qu'on puisse vraiment amorcer de vraies réformes de l'armée. Voilà pour l'instant ce que je peux dire.
Alors Jean-Jacques Kondo, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kananga, au Kassai occidental.
Je m'appelle Bernard, j'habite Kananga, dans la province du Kassai occidental. Tant que l'on négocie et que l'on intègre avec des grades acquis dans le maquis, la guerre sera un passage obligé pour les aventuriers afin d'accéder au pouvoir.
Réaction Jean-Jacques Wondo.
Ouais, je n'ai pas bien suivi le début, il a dit qu'on réintègre les gens avec des grades élevés, c'est ça que j'ai bien compris?
Alors il dit tant que l'on négocie et que l'on intègre des gens avec des grades acquis dans les maquis, donc dans les maquis où ils étaient, la guerre sera un passage obligé pour les aventuriers afin d'accéder au pouvoir.
Je partage tout à fait ce point de vue, d'ailleurs je le relève dans mon ouvrage, parce que le défaut de la réforme de la sécurité au Congo est que on a essayé de faire ce qu'on appelle une réforme soft. si vous comparez aux réformes qui ont été menées dans des pays comme le Libéria ou en Sierra Leone, il y a eu des mesures drastiques qui ont été prises. C'est-à-dire qu'on n'a pas intégré les gens sur base de leur classe qui ont été bombardés du temps où ils étaient milices. Mais par contre, on a fait appel à une sélection individuelle sur base de critères très rigoureux. Et cela a permis de trier, si je peux ainsi m'exprimer, le bon grain de livret. Or, au Congo, on a permis à n'importe qui, certaines personnes qui ont été poursuivies, qui ont commis des crimes qu'on peut qualifier de crimes contre l'humanité, de graves crimes de guerre, ces personnes se retrouvent au gradé et ils entretiennent des milices parce Merci. Que la problématique sécuritaire devient à la fois un enjeu politique et économique au même de certaines élites politiques et locales compte tenu des dividendes politiques et notamment financières. La Merci. Mort minière, par exemple, dont est il profite.
Merci Jean-Jacques Wondo. Je veux vous redonner la parole. Jean-Marie Labila, vous avez suivi l'analyse de Jean-Jacques Wondo. Il parle des frustrations de certains groupes armés qui sera la base de ces différentes attaques qu'on constate à travers la RDC. Il y a certains groupes armés qui naissent pour négocier finalement avec le gouvernement afin de se trouver de poste ou se positionner. Il a évoqué encore la question de dialogue national où les communautés se sentent exclues et essaient de créer des groupes armés pour se faire entendre.
D'abord, depuis ma bord, je voudrais dire que je me réjouis de l'évolution du débat. Il est très bon, il est constructif, il est volontariste parce que ça et là, on se complète par des éléments d'analyse et des apports en termes de renseignements, des faits, même opérationnels, et ça grâce à la participation de la générale à la retraite et puis d'un député de surcroît. Et notre ami qui parle de l'Europe, je crois qu'il a fait une analyse assez cohérente. Mais maintenant, le problème, c'est de séquencer les approches des solutions. Je sais qu'aujourd'hui, la communauté internationale reconnaît que pour le cas de la RDC, elle s'est trompée en demandant les brassages, les mixages. Aujourd'hui, il est communément admis qu'on ne peut plus recycler les criminels de guerre, ce qui est un atout majeur.
Ça a été un échec.
Ben oui, les brassages, les mixages, ça a été des échecs. Ça a été des échecs, il faut les reconnaître. Parce que vous ne pouvez pas mixer une armée où des éléments se disent qu'ils ne peuvent pas bouger de leur milieu d'origine. C'est ça les forces localistes. C'est une calamité, il ne faut pas accepter ce genre de choses. Donc j'ai dit que d'un point de vue de l'analyse, la façon dont l'émission est abordée est intéressante. C'est-à-dire que nous, d'abord c'est un défi national. Il faut se dire que le problème de la gouvernance sécuritaire est un défi national. Mais au même moment qu'il est un défi national, il impose aussi des défis au niveau de la norme de la gouvernance internationale. Il a parlé d'un concept que j'apprécie beaucoup. Le fait que les conflits en RDC soient transfrontaliers. Aujourd'hui, ce n'est qu'une analyse de présomption. Il est fort à parier que le fait que les M23 est en pleine déliquescence, cela peut pousser les mêmes agresseurs à susciter ça et là des foyers de tension pour donner l'impression que le Congo est ingouvernable, que le Congo est ingérable. C'est une hypothèse de travail, je ne la confirme pas encore. Mais je suis heureux de constater qu'en fait, pour les problèmes de la RDC, parce que souvent, les gens font de l'amalgame, ils comparent la RDC à la RCA, la RDC au Mali. Non, non. Nous avons ici un expert militaire qui peut témoigner de la complexité des problématiques des conflits et de l'insécurité au Congo. J'en viens maintenant, je voudrais terminer. Je vais terminer en disant ceci, que il faut une volonté d'en finir avec les crises récurrentes au Congo. Il faut construire les puzzles des solutions.
Alors là, vous parlez déjà des solutions. Oui. Ça, c'est pour la deuxième partie, on va y revenir, Jean-Marie Labila. Honorable Boulay, prenons le cas de Niamilima, par exemple, au Nord Kivu, où ce sont des groupes armés locaux où il y a un problème de cohabitation entre les communautés.
Oui, c'est vrai, il y a un problème de cohabitation entre les communautés, mais on ne peut pas accepter que pour régler ces problèmes et que ces communautés puissent s'organiser, et chaque tribu doit avoir son groupe armé. Mais
puisque l'État ne sait pas trouver une solution à ce problème.
Mais parce que l'État ne sait pas trouver...
Qu'est-ce que ces communautés font?
Écoutez, il y a eu beaucoup de tentatives pendant la transition, madame. Il y a eu les barzas communautaires dans les nord-sud Kivu. Ça, je parle en toute connaissance des causes. Où on a intéressé toutes les communautés pour demander leur implication de façon à trouver les solutions. Bien des gens disent ici, ils envoient la balle, tantôt pour dire que au gouvernement ou bien dans les institutions, il y a de ceux qui tirent les ficelles. Mais ils ne vont pas plus loin pour dénoncer, effectivement, avec beaucoup de preuves, et savoir qui est qui fait quoi. Mais quelles que soient les raisons de sécurité, ce n'est pas avec les armes qu'on peut régler tous les problèmes qui se passent dans une communauté. Et donc là, c'est à notre justice de faire aussi son travail au nom de son indépendance. Parce que quiconque, à l'article 190, c'est clair de la Constitution, personne n'a le droit de monter des groupes armés, des milices privées, tout ça. C'est une haute trahison, je l'ai dit ici. Et nous avons la justice militaire déployée à travers la République, mais je n'ai pas, de preuves suffisantes pour dire que effectivement, il y a quand même des poursuites intentées contre certains chefs des groupes armés. Et on continue à accepter cette floraison-là.
Alors qu'il y a un problème d'impunité aussi.
Il y a un problème d'impunité. Il y a un problème d'impunité. Parce que même avant M23, il y a eu des désertions massives. Alors, et puis on dit, vous rentrez dans 7 jours, la désertion massive à bande armée, mais au sens des codes pénales. Mais ce sont des poursuites qu'il faut engager vers ces groupes de militaires qui ont déserté l'armée. Et qu'en plus de ça, on ne voit pas l'armée pour seulement servir dans sa contrée, pour dire, moi je reste ici pour protéger les montagnes, les collines et tout ça de mes arrière-grands-parents, et en même temps qu'on se permet de les tuer.
Merci, honorable Mohamed Boulé. Et que faire pour mettre fin à l'activisme des groupes armés en RDC? C'est la deuxième partie de notre émission de ce soir. Je rappelle que je reçois dans cette émission pour le débat Jean-Marie Labila. Il est penseur et membre de la majorité présidentielle. Mohamed Boulé, député national de l'opposition et membre de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Il est général à la retraite. Jean-Jacques Wondo, analyste politique, expert en questions sécuritaires. Il est auteur de l'ouvrage intitulé Les armées au Congo Kinshasa, radioscopie de la force publique au FRDC. Jean-Jacques Wondo, que faire pour mettre fin à l'activisme des groupes armés en RDC?
Avant de répondre à cette question, j'aimerais revenir sur un point qui est revenu dans les différentes interventions même des auditeurs. On a soulevé le problème de la volonté politique. Et je pense que la volonté politique peut être retenue à l'unanimité comme l'une des causes principales de cette léthargie. C'est très important parce que on peut aujourd'hui proposer ce que j'appelle des thérapies tant qu'il n'y a pas un engagement ferme, une volonté politique de pouvoir mener des réformes, rien ne se fera. Donc il faut d'abord travailler au niveau de la volonté politique. Cette volonté doit d'abord être une volonté des autorités nationales et après une volonté de la communauté internationale soucieuse d'accompagner le Congo dans ses réformes. Or, aujourd'hui, on voit l'hypocrisie qui règne au niveau de la communauté internationale, notamment dans le cadre de la force d'intervention à l'Est, où on voit des positions assez opposées de la SADC avec l'ONU, où derrière l'ONU, on a les États-Unis et l'Union européenne. C'est très important parce que sans cette volonté, toute réforme, tout processus de réforme, tout processus de réforme est voué à l'échec.
Pourquoi? Solution?
Parce que pour... Allô?
Oui, les solutions, Jean-Jacques Wondo.
Pour pouvoir amorcer ces réformes, ça doit amener à une, ce qu'on appelle une gouvernance sécuritaire. Il y a l'intervenant tout à l'heure qui l'a dit, mais la gouvernance sécuritaire qui dit gouvernance, il faut quelqu'un pour piloter cela. Au niveau de pistes de solutions, ben, c'est difficile de proposer... ces pistes comme ça parce que le mal est profond, mais par où commencer la réforme? On a décrété que la sécurité devient une priorité des priorités. Et dans la mesure où on décide de cela, je vois que sur le plan politique, il y a des pourparlers qui sont en train de se préparer pour mettre sur pied un cadre de dialogue de cohésion nationale. Et moi je pense que, étant donné que la crise congolaise est plutôt aussi une crise sécuritaire, pourquoi ne pas convoquer en même temps des états généraux de l'armée sans exclusive où aucun groupe armé ne sera exclu a priori dans ces états généraux. Il faut voir tout. On a parlé de la situation à l'Est, mais on a oublié que le Congo, dans les médias, on a parlé de groupes des ex-femmes qui ont été arrêtés en Angola. et d'autres personnes qui ont été arrêtées en Afrique du Sud. Et la plupart des gens sont des extras, toujours certaines personnes qui sont exclues dans les processus, qui se trouvent à la base de la déstabilisation de la situation sécuritaire, sociopolitique au Congo. Ça, c'est une des pistes déjà que je trouve importante, c'est convoquer les états généraux de l'armée. L'autre point serait d'abord de commencer par créer un cadre macro-stratégique global de la réforme de l'armée. Dans mon ouvrage, je propose un plan national de la sécurité intégrale qui sera appuyé par les bailleurs de fonds. Mais je ne rentre pas dans les détails.
Merci.
Il faut une vision. On a parlé de la réforme, mais sans une vision, sans un cadre global de réformes, on ne peut pas aller très loin dans les réformes de l'armée.
Merci.
Je peux prendre encore deux, trois éléments assez rapidement.
Je
parlais aussi de renforcer la législation. Je veux peut-être me limiter là. Il y a eu l'organisation sur l'organisation et le fonctionnement des FRDC. On en a parlé il y a quelques jours avec le général Boulet. Cette loi doit normalement entrer en application dans quelques mois, parce que la loi a été votée en 2011. Mais cette loi a été suspendue pendant 2 ans, et je pense qu'en août 2013, ça devait entrer en vigueur. Il faut la loi organique, qui vient d'être publiée et promulguée récemment, mais il faut que cette loi aussi, une ordonnance d'exécution, puisse être mise en application.
Merci.
Et surtout, 2 lois essentielles, ou 3 lois, la loi de programmation militaire. Une loi essentielle qui doit porter sur les dépenses d'investissement au sein des forces armées, par un engagement financier pluriannuel qui détermine les effectifs et les crédits d'équipement et de modernisation des FRDC.
Merci Jean-Jacques Wondo. Jean-Marie Labila, avant de prendre vos propositions pour sortir, pour mettre fin à l'activisme de ces groupes armés, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu, Sud Kivu.
Franklin Matumalini de Bukavu au Sud Kivu. Tant que la question des groupes armés sera abordée avec des autosatisfactions de la part des gouvernants, il n'y aura jamais solution définitive. Si ce ne sont que des solutions périodiques, car les questions socio-économiques de la population ne font jamais la préoccupation des autorités, alors que la plupart des jeunes immigrés adhèrent dans ces groupes armés par manque d'occupation, c'est-à-dire chômage. Je pense, si l'on veut résoudre la question des groupes armés en RDC, il faut résoudre aussi la question du chômage et doter le pays d'une armée qui ne tremble et ne cède pas devant n'importe quel ennemi.
Réaction.
Oui, tout à fait d'accord. Je pense qu'on parle le même langage. Et au-delà de ce que notre ami de l'étranger, qui réside à l'étranger, un compatriote, a dit, il y a une nécessité d'intégrer une approche transdisciplinaire. Les questions de sécurité ne se résolvent pas que dans le cadre de la sécurité. Non, c'est une erreur. Il faut une approche disciplinaire. C'est-à-dire quoi? La réforme de l'appareil sécuritaire, c'est-à-dire l'armée, la police, la justice, les dispositifs, les services d'intelligence, mais aussi les modes d'exploitation des ressources naturelles. Tant que ça continuera à la pelle et à la houe, on sera insécurisé. Il faut penser à l'industrialisation, par exemple. Parce que quand vous avez des grands capitaux qui sont mis à contribution en termes d'investissement, vous avez une diminution des risques de fragilisation. Parce que les multinationales qui s'implantent vont travailler, vont contribuer à la sécurisation de l'espace, mais aussi vont créer des emplois. Parce que la plupart de ces jeunes gens-là qui vont s'enrôler dans les groupes armés, c'est parce qu'ils sont au chômage, ça c'est tout à fait normal. Donc je complète notre ami, notre compatriote qui parle de l'étranger, qu'il faut réformer les dispositifs sécuritaires en termes de l'appareil de l'armée, pour l'appareil de la défense du pays, la justice, la police, les services d'intelligence, mais aussi modifier les modes de production, d'exploitation. Tant que l'exploitation est artisanale, elle est source de conflictualité. Elle est un facteur conflictogène. Il faut en arriver à l'appel, à sécuriser, à rendre le pays attractif, à améliorer le climat des affaires pour que les gros investissements interviennent dans le secteur minier. Tant que cela ne sera pas fait, nous serons toujours victimes des tentations et des visées des multinationales qui les mêmes financent l'exploitation des ressources naturelles. Donc en fait, ne penser qu'à l'armée, c'est consolider les cercles vicieux. Il faut aller au-delà de l'armée. Il faut penser aux réformes économiques. Il a dit qu'il faut renforcer la législation. Mais j'ai dit qu'il faut améliorer le cadre de l'exploitation des ressources naturelles de telle sorte à les sortir d'un ancrage de conflictualité vers un ancrage de développement global, total de l'environnement dans lequel se mine la CEDEAO.
Merci Jean-Marie Labila. Mohamed Boulon, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani dans la province orientale.
C'est Célestin Raoul Bamongoyo de Kisangani, province orientale. Pour mettre fin à l'activisme des groupes armés qui opèrent en RDC, les solutions sont les suivantes. Primo, avoir une armée dissuasive et de guérilla. Secondo, bien rémunérer les hommes de troupes. Tertio, arrêter et sanctionner tous les officiels ou hommes politiques qui collaborent avec les groupes armés et ceux qui détournent les soldes et les rations des militaires. Quarto, restructurer l'armée actuelle et confier les responsabilités aux éléments formés. Quinto, faire appel aux ex-phases et ex-PAC qui maîtrisent bien tous ces différents secteurs. Sixto, réformer les lois foncières, minières et forestières qui sont source de nombreux conflits.
Alors, il nous reste moins de 5 minutes pour mettre fin à cette émission. Mohamed, vous voulez réaction?
Oui, la réaction à ce qu'il dit trouve déjà des réponses dans les statuts des forces armées. Il faut faire une lecture croisée avec la loi organique portant organisation et fonctionnement des forces armées. Ça a été publié et le 15 janvier dernier, c'est les statuts qui viennent compléter, qu'il faut tout simplement mettre ça en marche. Pour les groupes armés, au regard de ces deux textes et des lois, il n'y a plus de place pour les groupes armés. Parce que les conditions, même les modes de recrutement diffèrent. Nulle part vous verrez qu'il faut intégrer les groupes armés et tout ça. Ce que le gouvernement doit faire, les états généraux, c'est au niveau du haut commandement militaire, donc du chef d'état-major général. Tout ça, le mode de fonctionnement est bien réglé aussi dans ce texte de loi pour évaluer la menace que constituent ces groupes armés, province par province, garnison par garnison si l'échelle, et leur nombre, et identifier les responsables. Deuxièmement, monter des opérations au regard des moyens que le gouvernement mettra à la disposition pour traquer ces gens, les démobiliser, les désarmer et poursuivre ceux qui sont coupables au terme de crimes commis ici et là. Mais tout le monde ne peut pas aller travers l'armée. Il y a des effectifs qu'il faut arrêter, qu'il faut budgétiser. On ne peut pas croire, parce que nous n'avons pas des emplois ici, c'est seulement l'armée qui va résorber tous les chômages et tout ça avec les jeunes. On est là à 18 ans. Si on est dans le cadre des troupes hommes de rang, on n'a que 2 fois 7 ans. Et après, on prend sa retraite. Il faut être reclassé. Mais du moins, à ce moment-là, en quittant l'armée, on sortira déjà avec une spécialité. Si on veut faire la politique, c'est différent. Ce n'est pas avec les armes, ce n'est pas au bout de canon que cela se règle. Les processus, les modes est défini par notre constitution. Les gens n'ont qu'à se préparer, à créer leurs partis politiques, à éduquer pour se préparer d'aller aux élections. Il y a deux choses différentes. On ne peut pas à la fois faire l'armée et la politique et prendre d'une main une arme et de l'autre côté vous discuter pour dire « moi je suis politicien, je veux qu'on me réintègre ». Non, je pense qu'on doit mettre fin à cela pour qu'il y ait de l'ordre, c'est à la justice de faire son travail.
Alors en conclusion, Mohamed Boulay.
En conclusion, nous pensons que le gouvernement a beaucoup de choses à faire. Dès lors que le texte de l'arsenal juridique est là, en ce qui concerne l'armée, l'organisation, le fonctionnement, en ce qui concerne les statuts, c'est au gouvernement maintenant de faire un planning, de concevoir des plans budgétisables pour demander les moyens financiers si l'échec à venir demander, solliciter par la loi de programmation que j'ai toujours évoquée ici, parce qu'avec le budget national, il ne saura pas faire quelque chose parce qu'on ne peut pas aller au-delà de 5% des quantités du budget national pour régler tous les problèmes de l'armée. Et donc, c'est au gouvernement de planifier, de programmer pour faire des projections acceptables et possibles à réaliser.
Merci, honorable Boulay. Jean-Jacques Wondo, en une minute, votre conclusion.
Ma conclusion en une minute, pour dire que la sécurité, comme l'a dit un des prédécesseurs, c'est que ça ne continue pas dans le domaine de la défense, et je l'explique dans mon ouvrage, ça concerne tous les aspects sociaux, économiques et politiques, environnementaux et fonciers de la vie d'un pays. Deuxième chose, il y a un auditeur qui a proposé des pistes de solutions, ce sont les principes directeurs du plan de la réforme de l'armée à Répita. Mais on se rend compte que 10 ans après, rien n'a été mis en place. Et en sociologie du droit, on dit, il ne suffit pas de créer une loi pour modifier le comportement des gens, encore faut-il qu'il y ait une volonté politique pour pouvoir mettre en application tout l'arsenal juridique et le législatif qui a été voté. C'est très important à ce niveau. Et en dernier lieu, je pense qu'on a parlé sur le plan interne, il faut à tout prix qu'il y ait une diplomatie active pour réviser le mandat de la MONUSCO.
Merci Jean-Jacques Kondo. Jean-Marie Labila, conclusion.
En conclusion, je voudrais dire rapidement que les dialogues ou les concertations politiques en perspective n'exclut pas les segments des forces vives de la nation. Donc les communautés qui se sentent exclues n'ont pas de raison de prendre les armes ou de favoriser la prise des armes par des jeunes pour revendiquer une place dans les concertations en perspective. D'un point de vue de la norme internationale, il faudra, comme l'a dit notre compatriote qui est à l'extérieur,
rapidement,
que la communauté internationale sache qu'un Congo stable, merci, est un atout pour l'humanité.
Merci Jean-Marie Lavilla, c'est la fin de cette émission. Rediffusion demain 4h15 heure de Kinshasa. Bonsoir chez vous et bonne suite de programmes sur la fréquence de la paix.